Chers amis et camarades, tout d'abord, au nom de tous les camarades de lutte ouvrière, je vous souhaite la bienvenue à notre fête et j'espère que vous allez tous y passer une excellente soirée. Alors, je vais commencer par quelques chiffres. Plus de 1400 milliards de dollars, c'est le montant des dividendes qui devraient être versés cette année aux actionnaires dans le monde. 1000 milliards d'euros, c'est le montant de la trésorerie qui est dans les caisses des entreprises de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. 900 milliards de dollars, c'est l'augmentation de la richesse des milliardaires dans le monde l'an dernier. Ces chiffres donnent le tournis. À un pôle de la société, l'argent s'accumule. 26 milliardaires sur la planète possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et les bourgeois français sont même parmi ceux qui se sont le plus enrichis, comme Bernard Arnault, le propriétaire de Carrefour et de LVMH, dont la fortune a augmenté de 20 milliards d'euros l'année dernière. Il est la quatrième fortune mondiale, juste derrière Bill Gates, Jeff Bezos et Warren Buffett. Ces capitalistes, parce qu'ils possèdent les richesses, imposent leurs lois à toute la société. Au-delà des gouvernements, ce sont eux qui prennent les décisions dans l'économie, eux qui décident de comment ils utilisent ces capitaux gigantesques qu'ils ont entre les mains. Au nom de la propriété privée qui est sacrée dans notre société, la collectivité n'a jamais son mot à dire sur l'utilisation de ces richesses. Dans la production de médicaments, par exemple, on a vu se multiplier les pénuries ces derniers temps. Des médicaments contre le cancer, des antibiotiques, des corticoïdes, des traitements contre l'hypertension ou des maladies cardiaques. Tout ça parce que les trusts pharmaceutiques comme Sanofi cherchent à limiter les stocks au maximum ou limitent volontairement la production de certains médicaments qui ne rapportent pas assez. Eh bien, les malades sont pris en otage par la loi du fric. Aujourd'hui, les richesses dégoulinent à un bout de la société, mais elles s'investissent de moins en moins dans la production. Les capitalistes eux-mêmes ont si peu confiance dans l'avenir de leur propre économie qu'ils en arrivent à prêter à certains États à des taux d'intérêt négatifs. Que des banquiers préfèrent perdre de l'argent en mettant leurs billes dans un placement sûr, cela en dit long sur l'état de décrépitude de leur système. Ce ne sont pourtant pas les besoins qui manquent à l'échelle de la planète, en hôpitaux, en système d'eau potable, en habitation correcte, en éducation. Mais dans l'économie capitaliste, on ne produit que pour ceux qui peuvent acheter. On ne produit que ce qui rapporte. Ou alors on ne produit pas, on spécule. Et on alimente ainsi des bulles financières de plus en plus grosses qui peuvent exploser à tout moment. Avec les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec la menace du Brexit, avec les menaces de guerre au Moyen-Orient, la moindre annonce peut mettre le feu aux poudres et plonger le monde dans une nouvelle phase encore plus brutale de la crise. Regardez la flambée du baril de pétrole cette semaine. Leur économie est en panne. Pour maintenir leurs profits alors que la production stagne et que les marchés sont saturés, les capitalistes attaquent brutalement le niveau de vie des travailleurs avec l'aide des gouvernements. La dernière en date des attaques de Macron, c'est son projet de démolition des retraites. À ce sujet, je voudrais saluer le succès de la grève des traminots de la RATP vendredi dernier. En se mettant massivement en grève, au point d'arrêter presque entièrement le réseau de transport parisien, ils ont démontré à ceux qui en doutaient que les travailleurs sont indispensables au fonctionnement de la société. Quand les travailleurs d'une seule grande entreprise, dans une seule ville, se mettent en grève un seul jour, ça se voit et ça pèse. Alors imaginez la force que représenteraient les travailleurs s'ils s'y mettaient tous ensemble. D'ailleurs, Macron et son Premier ministre Philippe en sont très conscients. Ils craignent que la colère exprimée par le mouvement des Gilets jaunes, par les mouvements dans les hôpitaux, se généralise. Depuis la rentrée, ils ont changé de ton. Ils ont reporté l'examen et le vote de la réforme des retraites pour après les élections municipales. Alors, donnons-leur de bonnes raisons d'être inquiets. N'attendons pas de connaître les détails de cette nouvelle attaque pour nous mobiliser et montrer notre force. Multiplions les discussions autour de nous dès lundi pour convaincre nos collègues de travail de débrayer, de faire grève et de manifester mardi 24 septembre. Alors, aujourd'hui, les menaces que la bourgeoisie fait peser sur la société ne sont plus seulement économiques et sociales. Elles ont atteint la planète, son climat, ses océans, l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. Hier, des centaines de milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour alerter sur les conséquences dramatiques du réchauffement climatique et sur l'urgence d'agir pour y mettre fin. De nouvelles manifestations ont lieu aujourd'hui. Les conséquences de la pollution sont devenues concrètes et tangibles. De plus en plus d'épisodes de canicule, de sécheresse, des ouragans et des cyclones plus violents, la disparition prévue de régions côtières sous la montée des eaux, l'Amazonie qui brûle et des espèces vivantes qui disparaissent. Dans ce monde divisé en classes sociales, les premières victimes sont toujours les populations les plus pauvres, comme cet été dans le nord de l'Inde, où il y a eu des dizaines de morts à cause de températures montant jusqu'à 50 degrés, en particulier parmi les travailleurs les plus exploités. L'ONU prévoit qu'il y aurait 280 millions de réfugiés climatiques en 2050. Alors oui, il y a urgence, et la jeunesse a bien raison de se révolter. À condition qu'elle ne se fasse pas avoir par les leaders de l'écologie politique, comme un Yannick Jadot, qui considère qu'il n'y a pas besoin de contester le capitalisme. Ou ces anciens ministres pseudo-écolos, comme De Rugy, pour qui le nec plus ultra de l'écologie consiste, entre deux homards, à interdire aux voitures les plus polluantes de rouler certains jours, privant ainsi les travailleurs les plus pauvres, avec les voitures les plus vieilles, de la possibilité d'aller à leur travail. On ne peut pas non plus se contenter de réfléchir à l'échelle individuelle, de faire chacun de petits gestes, voire de limiter sa propre consommation. Cette façon de poser le problème est aussi naïve et inefficace qu'elle est réactionnaire. Entendre des intellectuels et des journalistes montrer du doigt la consommation des classes populaires, c'est indécent dans ce monde où tant d'êtres humains sont privés du strict minimum. Désigner les pauvres et les individus, c'est refuser de dénoncer la responsabilité de ceux qui organisent toute la production. À qui la faute si des constructeurs automobiles comme Renault ou Volkswagen ont menti sur les émissions polluantes de leurs voitures? À qui la faute si on manque de transport en commun régulier, gratuit, pour éviter de prendre sa voiture? À qui la faute si on supprime des transports de marchandises par train pour mettre des milliers de camions dangereux et polluants sur les routes? Ce ne sont pas les consommateurs qui font ces choix. Ce sont les gros industriels, les capitalistes du pétrole, de la chimie, de l'automobile. Les dégâts sur la santé des travailleurs, qui sont les premières victimes, sur l'air qu'on respire, sur la pollution des mers, tout ça, ça ne rentre pas dans leur bilan comptable. Le gâchis dû au capitalisme est énorme. Une entreprise comme Amazon a détruit plus de 3 millions de produits invendus l'année dernière. Cela illustre le fonctionnement irrationnel de l'organisation économique actuelle, où on ne produit pas en fonction des besoins, et où ça coûte moins cher de détruire des produits que de les stocker. Et puis, toutes ces questions, celles du climat, de la préservation de la nature, de l'environnement, ce sont des questions qui se posent à l'échelle mondiale. Mais dans ce monde où règne la concurrence, la loi du plus riche, où chaque État cherche à protéger ses propres capitalistes de la moindre contrainte, les grands messes internationales sur le climat accouchent au mieux de déclarations d'intention sans lendemain. Pourtant, les scientifiques spécialistes du climat savent ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement, tout comme leurs collègues médecins savent éviter les épidémies et soigner les malades, mais ne peuvent le faire sur une planète où la pauvreté du plus grand nombre est la condition pour qu'une minorité de possédants vive dans le luxe et les privilèges. Face à la catastrophe environnementale, comme face à la catastrophe économique et sociale, il va falloir renverser le capitalisme, enlever à la bourgeoisie son pouvoir de nuire à toute la société. Et si la jeunesse a légitimement des raisons d'être inquiète pour son avenir, pour aller jusqu'au bout, elle n'aura pas d'autre choix que de se battre pour une société où ceux qui produisent les richesses décident de leur utilisation. Une société où l'économie serait planifiée, organisée de façon rationnelle, en prenant en compte à la fois les besoins des femmes et des hommes et les ressources de la planète, c'est-à-dire se battre pour une société communiste. Oui, le capitalisme, c'est la crise, sous de multiples formes. Crise climatique, crise commerciale, crise financière en germe. C'est aussi les guerres. Depuis des années, plusieurs pays du Moyen-Orient ou d'Afrique sont ravagés par des conflits et des interventions militaires des grandes puissances. Le week-end dernier, suite au bombardement d'installations pétrolières saoudiennes, les États-Unis ont accusé l'Iran, laissant planer la menace d'une nouvelle guerre impérialiste. Depuis plus d'un an, les États-Unis sont rentrés dans une logique d'affrontement avec le régime iranien, avec un embargo et l'interdiction d'acheter du pétrole iranien, dont les conséquences sont payées par la population. Cette région riche en pétrole a déjà été largement dévastée par les interventions successives des grandes puissances, comme en Irak ou en Libye. Ce n'est pas le caractère dictatorial du régime iranien contre sa population qui dérange les puissances impérialistes. Car pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, au régime moyenâgeux, reste un allié privilégié de la France et des États-Unis. L'Arabie Saoudite peut poursuivre sa sale guerre au Yémen, qui a déjà fait des dizaines de milliers de victimes et qui affame aujourd'hui une bonne partie de la population. Mais l'Arabie Saoudite fait partie des gros clients des marchands d'engins de mort français, comme Dassault ou Thalès, qui, selon le journal Les Échos, voient leurs marges s'envoler. Dans cette période de crise, l'industrie de l'armement est un secteur moteur de l'économie. Que des trésors de travail humain, d'intelligence et de technologie soient ainsi dépensés pour perfectionner les destructions, c'est encore un signe que le système capitaliste a fait son temps. Dans ce monde de plus en plus barbare, des milliers de femmes et d'hommes sont contraints de fuir leur pays, prêts à risquer leur vie pour gagner l'Europe, dont les frontières se hérissent de barbelés. Au fil des naufrages d'embarcations chargées de migrants, la Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Et à chaque bateau humanitaire qui recueille des rescapés, l'atroce feuilleton recommence. Aucun pays européen n'acceptant qu'il accoste, au point qu'une capitaine allemande a même été arrêtée en Italie pour avoir forcé le passage. Et si les médias français ont surtout pointé du doigt la démagogie de Salvini quand il était encore ministre de l'Intérieur en Italie, Macron, qui jouait alors les humanistes, n'a jamais ouvert un port français pour accueillir ses réfugiés. Alors que la France fait partie des pays les plus riches de la planète, les migrants qui arrivent sont accueillis dans des conditions indignes. Les places d'hébergement manquent, y compris pour les mineurs. Et lorsqu'ils parviennent à se mettre à l'abri en occupant des bâtiments vides, ils se font régulièrement expulser et jeter à la rue, comme le bâtiment surnommé Amphizède à Villeurbanne il y a 15 jours. En Afrique même, l'Union européenne aide financièrement des gouvernements pour qu'ils arrêtent les migrants en cours de route. En Libye, où les gardes-côtes stoppent des embarcations et conduisent leurs occupants vers des prisons où règne la torture et où sont organisés de véritables marchés aux esclaves. Au Soudan, en Érythrée, en Éthiopie, où des centaines de milliers de migrants sont parqués dans des camps atroces, avec le soutien des dirigeants des prétendues démocraties européennes. Ceux qui gouvernent et les démagogues d'extrême droite qui aspirent à gouverner voudraient nous faire croire que l'immigration serait un danger, une menace. C'est le moyen commode de faire oublier les vrais responsables de nos malheurs. Jamais en retard sur l'ignominie, Macron vient de lancer un pseudo-débat à l'Assemblée sur l'immigration parce que, selon lui, cela ferait partie des préoccupations des classes populaires. En plus de son mépris habituel pour le monde du travail, il s'apprête donc à venir chasser sur les terres des pires préjugés à la manière de Marine Le Pen. Il s'apprête une nouvelle fois à opposer les travailleurs les uns aux autres. car les migrants font intégralement partie de la classe ouvrière. Ils ne viennent pas en Europe pour vivre de leur capital en exploitant les autres. Ils viennent pour travailler, pour accéder à une vie qu'ils espèrent meilleure. On les retrouve sur les chantiers du bâtiment, dans la restauration, dans les usines. Ceux qui veulent nous faire croire que les migrants coûtent cher, ce sont les mêmes qui nous expliquent que les retraites coûtent trop cher, que la santé coûte cher, qu'il n'y a jamais d'argent pour l'éducation et pour les hôpitaux. Mais les travailleurs ne coûtent rien. Les travailleurs, ce sont eux qui produisent les richesses. C'est du travail des millions d'exploités, avec ou sans papier, femmes ou hommes, embauchés ou intérimaires, que provient la gigantesque accumulation de profits ou de dividendes. La force des travailleurs, c'est leur nombre, c'est leur place dans la société. S'ils en prennent conscience, s'ils s'organisent, ils peuvent renverser cette société d'exploitation. C'est ce que craint le patronat, et c'est ce que cherche à éviter tous ces larbins politiques. En semant des idées de division dans le monde du travail, les Macron ou les Le Pen servent les intérêts de leurs maîtres capitalistes. C'est bien pour ça que ceux qui, parmi les nôtres, croient combattre Macron en votant Le Pen se trompent lourdement. Au contraire, en tant que travailleurs conscients de nos intérêts, nous devons reprendre haut et fort la devise du mouvement ouvrier, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. La montée de l'extrême droite dans différents pays se nourrit de la crise, du désespoir, du dégoût de la politique, des trahisons de la gauche. En France, mais aussi aux États-Unis avec Trump, au Brésil avec Bolsonaro, en Italie, en Allemagne, où l'AFD a progressé lors des dernières élections. En Grande-Bretagne, c'est l'Europe qui a été présentée comme source de tous les problèmes et les électeurs ont choisi le Brexit. Présenter les frontières comme une protection pour les travailleurs, c'est une arnaque. Les plans de licenciement, les bas salaires, la précarité ne sont pas dus à la mondialisation, mais à la guerre menée par le grand patronat pour maintenir ses profits. Pour renverser ce système, comme communistes, nous gardons confiance dans la force collective de la classe ouvrière. Les travailleurs ne sont certes pas les seuls à subir les méfaits de la société capitaliste, mais ils sont au cœur de la production des richesses. Ce sont eux qui peuvent s'attaquer directement à la propriété des capitalistes. La conscience de cette force, de cette possibilité, n'est bien sûr pas innée dans le monde du travail. En l'absence de lutte et de perspectives politiques, les travailleurs sont perméables aux idées véhiculées par la bourgeoisie, comme l'individualisme ou le nationalisme. Pour exister, les idées révolutionnaires doivent s'incarner dans des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des travailleurs qui défendent leur propre politique, opposée à celle du grand patronat. Ces travailleurs conscients doivent s'organiser, tisser des liens entre eux pour faire vivre ensemble la perspective de changer radicalement la société, le combat pour une société communiste. Un changement social profond nécessitera bien des luttes, d'une ampleur importante. Il n'est pas en notre pouvoir aujourd'hui de les déclencher, mais ça peut venir vite. Regardez ces révoltes populaires en Algérie, au Soudan. Regardez la colère, la détermination, le courage de ces manifestants qui sont descendus dans la rue semaine après semaine pour contester les régimes en place. Mais des révoltes, même déterminées, ne suffisent pas à changer profondément l'ordre social en place. Car en face de nous, la bourgeoisie est organisée. Elle a son État, sa police, son armée, ses partis politiques, prêts à la servir quand ils arrivent au pouvoir. Pour que le monde du travail puisse mettre en avant ses propres objectifs politiques, il a besoin d'un parti qui représente les intérêts des exploités face à ceux des grands patrons. Un parti qui ne cherche pas à trouver une place au sein de la société, mais qui vise à la renverser. C'est pourquoi il est vital de regrouper autour de nous le maximum de travailleuses et de travailleurs qui partagent cette perspective. Dans des périodes de révolte sociale, un tel parti pourrait grossir vite. Mais même dans des périodes de recul politique comme celle que nous vivons, on peut tisser notre toile, on peut préparer l'avenir. Dans l'année qui vient, il va y avoir des élections municipales. Ce sera l'occasion pour nous de faire entendre à nouveau le camp des travailleurs dans le maximum de villes. Ce sera aussi une façon de poser des jalons pour construire le parti. Et pour cela, nous allons avoir besoin de l'aide de tous ceux qui se reconnaissent dans ces idées, pour constituer des listes, pour trouver de nouveaux colistiers. Et pour que ces élections nous permettent de franchir des pas dans la direction de ce parti révolutionnaire communiste qui manque au monde du travail. Alors, il y a du pain sur la planche, toutes les bonnes volontés, tous les enthousiasmes seront les bienvenus cette année. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fête.